Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, John Ford. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Aujourd'hui, John Ford. John Ford, c'est un nom que vous connaissez peut-être sans avoir vu tous ses films. Ce qui est fondamental chez lui, c'est qu'il a réussi à imprégner une marque de fabrique à un moment où les réalisateurs étaient souvent dominés par les studios. Et il a été considéré comme, je dirais presque, le père de tous les réalisateurs. Alors, je vais commencer en citant certains réalisateurs connus qui ont parlé de John Ford. On peut trouver ça dans des dizaines d'articles, mais j'ai pris cela dans un documentaire qui a été réalisé par un metteur en scène qui s'appelle Bogdanovich, et il est allé voir des metteurs en scène modernes. Alors je les cite parce que vous allez voir combien il y a la référence à Ford. Donc Clint Eastwood dit « Pour ma génération, il était le grand-père de tous les réalisateurs de l'époque. Il a influencé tous les cinéastes depuis les années 50 jusqu'à nos jours. » Spielberg. Ford est éternel, car ses films sont éternels. Son œuvre inspire et influence de nombreux cinéastes. Martin Scorsese, il est l'essence du cinéma classique américain et celui qui réalise des films aujourd'hui, qu'il le sache ou non, est influencé par Ford. Et il ajoute, le premier nom que j'ai retenu dans les génériques d'un film qui n'en est plus, c'est celui de Ford. Alors j'ai regardé tous les films réalisés par John Ford. Et... On cite aussi Orson Welles, qui est un énorme réalisateur du XXe siècle, et interrogé sur qui était le meilleur réalisateur, il dit « Je préfère les vieux maîtres, John Ford, John Ford et John Ford. » Donc, il est incontestable que John Ford ait laissé une marque extrêmement forte dans le cinéma américain. Et quand j'ai recherché chez moi des livres dans ma bibliothèque sur Ford, j'en ai trouvé 7. Mais c'est un minimum par rapport aux dizaines, voire des centaines qui ont été publiées entre les États-Unis et la France. Donc John Ford, c'est vraiment un réalisateur qui a marqué. Certains films sont absolument devenus des classiques, comme Les raisins de la colère, qu'il a adapté de Steinbeck et qui a une dimension sociale extraordinaire. Après, il a fait aussi Le mouchard sur la dénonciation par une personne d'un membre de l'IRA. Le Cheval de Fer, qui était le premier film sur cette épopée qui a marqué aussi le 19e. La Chevauchée Fantastique. Un certain nombre de films importants. La Poursuite Infernale aussi. L'Homme qui tue Liberty Valance. Voilà, je cite quelques films qui ont véritablement marqué par leur qualité. Alors, je vais donner quelques éléments, je dirais, factuels qui n'ont pas tellement d'importance, mais qui sont peut-être à citer. John Ford est mort en 1973 et on le fait naître à la fin du 20e siècle, du 19e, pardon, 1894 ou 95, il y a des doutes. Donc, à partir de là, il va commencer à venir au cinéma comme figurant, puis comme assistant, et enfin, il va devenir un réalisateur à part entière avec un film en 1917, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je reviendrai sur cette époque du film muet. Là, ce que je veux surtout mettre en avant, ce sont les caractères qui marquent John Ford et qui marquent tous ses films, avant de revenir donc sur ses films les uns et les autres. Donc, ce qu'on peut trouver chez John Ford, c'est la mise en place d'une thématique dans divers domaines. Mais il a aussi, et cela paraît important, une troupe d'acteurs. Ça, c'est intéressant sur les réalisateurs qui sont fidèles à une troupe. On peut citer tout simplement Molière. Hein. Molière, on ne sait pas toujours qu'il a une troupe avec des personnes qui jouent toujours les mêmes rôles. L'ingénu, le valet, le premier rôle, etc., etc. Et ici, il y a des premiers rôles qui sont connus comme John Wayne. On a du mal à dissocier parfois John Wayne et John Ford. Mais il y a aussi des acteurs célèbres à l'époque, James Stewart, Henry Fonda, etc. Et cette troupe montre donc la fidélité de Ford à une équipe et sa fidélité aussi à ses racines. Alors ses racines, ce sont l'humanisme. L'approche de Ford est toujours une approche humaniste. Il va dépeindre le quotidien de gens simples, comme dans Les raisins de la colère, et il s'écarte très largement de ce qui est à la mode aux États-Unis dans les films américains des années 30-40, c'est la Jet Society. Hein. On a énormément de films avec la bonne société, des riches, dont on suit les péripéties, etc. etc. Donc, cette analyse par Ford de l'humanisme renvoie à un autre réalisateur qui est pour moi aussi un des grands, que tout le monde connaît, c'est Chaplin. Chaplin a aussi cette dimension humaniste. Et encore une fois, c'est rare à l'époque d'avoir cette approche dans laquelle on met une dimension sociale, où on analyse les racines de la société, les difficultés de la société, et non pas les préoccupations de la Jet Society. Alors, il a aussi cet humanisme à travers ses racines irlandaises. Il a des parents qui sont venus d'Irlande, et le sujet de l'Irlande apparaîtra dans quelques films comme Le Mouchard, je le citais tout à l'heure, La dénonciation d'un membre de l'IRA par un autre, et L'homme tranquille, qui est un film qui se passe en Irlande, avec une sorte d'approche comique familiale, si on peut dire. Donc, un artiste humaniste. Il y a aussi un caractère sensible, c'est un artiste sensible. Il va être en apparence dégingandé, rejetant un certain nombre de choses, faisant preuve de « je m'en foutisme », d'indifférence. Mais en réalité, il a une situation de personnalité encore particulière. Cette sensibilité apparaît à travers sa tenue vestimentaire. Il s'en moque, il est toujours négligé, provoquant, etc. Et il y a aussi, mais j'en dirai peut-être un mot plus tard, parce que c'est la première partie aujourd'hui, on aura la deuxième partie dans 15 jours, il reçoit avec une vieille veste de sport usé, il ne veut pas parler de son œuvre. Alors là, c'est l'opposé de certains réalisateurs qui se penchent, alors tel plan, j'ai voulu faire ça ou ça ou ça. John Ford rejette ça, il veut écarter les commentaires. Il dit, moi, je fais des films, c'est comme ça. Si on lui pose des questions en détail, il dit, oh, je ne sais pas. Une des répliques les plus célèbres, c'est une personne qui l'interroge, qui lui dit « Alors, vous avez fait ce plan-là, c'est très calculé, comment vous avez fait ?» Il répond « Avec une caméra. » Ce qui est une manière de se moquer à la fois de celui qui pose des questions et de se moquer aussi de sa place en disant « Bon, je fais des films, peu importe. Bon. » Et on a une sensibilité qui apparaît et qui est mentionnée dans un certain nombre d'ouvrages. Et en particulier, il y a un ouvrage écrit par Harry Carré, je viendrai sur ce nom, qui montre cette sensibilité, et aussi un ouvrage de Robert Parrish qui développe comment Ford, sous ses dehors un petit peu bruts, a cette dimension de sensibilité. On peut dire que c'est aussi un être courageux, c'est-à-dire que Ford, qui n'avait pas à le faire, s'est engagé activement dans la Seconde Guerre mondiale, à un moment où il est arrivé à la cinquantaine, donc où les gens ne vont pas se lancer dans ce genre de péripéties. Il va réaliser quelques films dans le secteur de l'armée, en particulier de la marine, puisqu'il fait partie de la marine. Et il va aussi, et ça c'est un élément important, à une époque où les femmes ont une place secondaire à Hollywood, il va donner des rôles importants à, je dirais, des femmes ordinaires qui sont là, des mères, des sœurs, etc. Et ça n'existe pas beaucoup chez d'autres réalisateurs. On a donc une situation assez originale. Et je parlais des westerns, dont j'ai sélectionné aujourd'hui, comme d'habitude, trois musiques. Et la première musique se rattache à un film qui s'appelle Les Cavaliers, où apparaît notamment la cavalerie qui est présente souvent chez John Ford. Yeah. John Ford est un adepte d'une liberté d'expression absolue. C'est-à-dire qu'il tourne à un moment où règnent les studios hollywoodiens et les producteurs hollywoodiens, et il arrive à défendre cette liberté d'expression. Et il la défend notamment parce qu'il a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. D'abord, il va tourner souvent une prise, en considérant que cette prise est bonne, la première est bonne, le reste sont des répétitions et ce n'est pas intéressant. Et ensuite, quand il y a un montage, souvent le montage échappe à cette époque-là au réalisateur. Et lui, avec sa technique, il va bien sûr imposer un montage parce que celui qui vient monter, bah, il est pris, il y a telle scène, il a l'impossibilité de la remettre en cause ou de la développer, puisqu'il n'y a pas, je dirais, de plan pour, en quelque sorte, se protéger par rapport à un plan autre. Alors, c'est véritablement cette domination de l'ensemble du film qui va le marquer. Ainsi, il aura plusieurs scénaristes, je dirais, attitrés, puisque sur tant de films, c'est obligatoire. Mais il va discuter avec eux, il va leur demander de revoir le scénario. Parfois, il va arracher des pages du scénario en disant « bon, ce n'est pas important ». Ils discutent et puis ça ne sert à rien. Donc j'arrache le passage et on filme directement sans avoir un dialogue aussi développé. Alors il faut reconnaître une dimension, on peut dire, tyrannique. Alors cette dimension se traduit par le fait d'imposer parfois aux acteurs des éléments qu'ils ne voudraient pas, mais aussi de les dominer en se moquant d'eux, en disant « voilà, vous avez fait tel plan, ça ne me paraît pas terrible, il faut reprendre ça. » Et il se moque devant toute l'équipe de ces acteurs qui peuvent se tromper. Alors ce côté dictatorial est incontestable, avec cette pression sur les acteurs. Et alors bizarrement, il a ce qui est un tic ou une action ou un acte permanent. C'est-à-dire qu'il a généralement un cigare ou une pipe d'un côté. Et de l'autre côté, il a un mouchoir. Alors, bizarrement, ce réalisateur archi-célèbre a un mouchoir qu'il va mâchonner en permanence, surtout quand il est en colère. Et certains disent, attention, dès qu'il mâche le mouchoir, c'est le pavillon noir de la colère fordienne. Donc, difficulté parfois d'aller contre cette volonté. Et il avait montré à un des assistants réalisateurs comment se débarrasser d'un producteur. Il lui a dit « bon, assieds-toi à côté de moi ». Il avait ce qui pend souvent au cou d'un réalisateur, c'est-à-dire un objectif. Et il explique « voilà ce que je fais ». Il se tourne, il assomme à moitié son assistant en lui disant « voilà, t'as compris, il faut faire ça ». Et puis le producteur ne revient pas et ne vient plus faire un tour sur le plateau. Alors, la liberté d'expression, c'est aussi au niveau politique que ça peut se manifester. Vous savez que les républicains, c'est plutôt la droite et les démocrates, plutôt la gauche aux États-Unis. Beaucoup de ces acteurs, John Ford ou John Wayne ou d'autres, votaient républicains. Et lui, alors qu'on pouvait penser le contraire, votait démocrate. Et cette expression s'est aussi manifestée dans, on pourrait dire, la vie corporative du cinéma. Il y avait dans les années 50 un syndicat de réalisateurs et ce syndicat avait été touché, comme d'autres secteurs de la société, par le maccartisme. Donc on voulait écarter tout ce qui était communiste ou à peine un peu de gauche et qui présentait un danger. Vous savez que ça dure encore aujourd'hui, hein, pour les Américains, ce rejet absolu du communisme. Donc une réunion du syndicat des réalisateurs. Et celui qui est président s'appelle Mankiewicz, qui est là aussi un grand, grand réalisateur. Et il y a un autre réalisateur qui s'appelle Cécile B. DeMille, aussi très, très coté à l'époque, qui veut prendre la présidence en disant « on va écarter cette espèce de communiste qui est insupportable ». Alors, le camp de DeMille semble l'emporter. Et puis, à un moment donné, Ford va intervenir et va s'exprimer. Alors celui qui raconte la scène dit « De temps à autre, Ford rangeait sa pipe et sortait un mouchoir sale avec lequel il essuyait ses lunettes et qu'il mâchonnait ensuite un moment. » Toujours cette attitude qu'on a du mal à comprendre. Il eut un moment de silence et Ford leva la main. Un sténo chargé de prendre les minutes de la séance était dans la salle et chacun devait donner son nom. Ford se tourna vers Steno et dit « Je m'appelle John Ford, je fais des westerns. » Il s'arrêta un instant, il ajouta « Je pense qu'il n'y a personne dans l'assistance qui sache mieux que Cecil B. DeMille ce que veut le public américain. De ce point de vue, j'ai pour lui l'admiration. Mais je ne t'aime pas et je n'aime pas ce que tu représentes. Je n'aime pas les paroles que tu as prononcées ici même. Joe Mankiewicz a été traité dans la boue et je pense que tu lui dois des excuses. » Et en définitive, personne ne parlait plus. Et Ford dit, y a une seule solution, c'est de dire qu'on prend une motion pour que 2000 et les autres metteurs en scène qui sont de son côté vont partir. Et après, on fait un vote de confiance avec Mankiewicz, il sera temps de nous coucher. Voilà. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, une attitude de cette dimension-là, ça pourrait être le conduire devant justement les commissions imposées par le McCarthyisme. Donc, voilà quelques éléments sur cette personnalité de John Ford. Et on va venir maintenant plus directement au film, où il faudra, je dirais, être subjectif dans la mesure où il y a environ 140 films qui ont été tournés par John Ford. 140 films. Sauf que, bien sûr, plusieurs dizaines ont été tournées à l'époque du muet. Je vais y revenir. Et ensuite, à l'époque du parlant, régulièrement, plusieurs films par an, deux, trois. En 1930-40, quatre films aussi, j'y reviendrai, parce que ce sont quatre chefs-d'œuvre. En suivant, quatre films, quatre chefs-d'œuvre. Hein, Les Raisins de la Colère, La Chevauchée Fantastique, You, Mr. Lincoln et La Piste des Mohawks. Donc, ces quatre films, quand on les voit, on se dit, il a passé 3 ans à les préparer. Non, il a passé 2 mois. Il a tourné les films. Bon. Donc, une qualité extrême de mise en scène, d'écriture, de montage, etc. Alors, l'époque du muet. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'époque du muet? On va trouver ce qu'on appelle des serials. Alors, les films muets, ils commencent en 1917, The Tornado. Les films muets sont ce qu'on appelle les deux bobines. Quand on parle de Chaplin, vous avez tous vu, on en a parlé il y a quelques semaines, ce qu'on appelle des films de Chaplin, des courts-métrages, mais ce ne sont pas des courts-métrages. Il y a une bobine de film qui dure 10 minutes, donc quand on dit deux bobines, c'est la durée des années 10, c'est 20 minutes. Donc, John Ford a tourné les films muets sur ce cadre-là. Il explique là aussi, est-ce qu'il mythifie ou pas, puisqu'on l'a vu, hein, John Ford, il est brut, il dit des choses, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Bon. Et il explique, voilà, moi j'étais figurant, puis j'ai commencé à être assistant, et puis un jour, le metteur en scène n'est pas venu, alors on m'a dit, prends les rênes en main du film. Il explique, il y avait des chevaux et des cow-boys, je les ai fait avancer, j'ai réussi à tomber, puis après il y avait une fusillade. Alors il minore bien sûr ce qu'il a fait. Et comme le résultat est intéressant, eh bien on va continuer à faire appel à lui. Et donc des films, hein, comme Chaplin va tourner à peu près je dirais un film tous les 2 mois, ce qu'on appelle ces deux bobines, donc une vingtaine de minutes. Et il va utiliser le même acteur et le même personnage dans plusieurs films. Je précise encore une fois que cette mode du serial, hein, c'est devenu les séries par la suite au niveau américain. Ce sont les séries américaines, notamment dans les années 60-50, qui ont repris le relais des films western de série B. Et on appelait ça série. Donc ces films, à l'époque, c'est un personnage récurrent qui connaît certaines aventures et qui va, au fil du temps, garder la même psychologie et attirer les spectateurs qui vont dire « Ah oui, moi je veux venir voir le prochain Cheyenne Harry », puisque c'est le nom qu'on donne à Harry Carey dans le film. Donc, film muet qu'il tourne assez rapidement, films muets qui sont, pour de très nombreux, perdus aujourd'hui, mais ça ne touche pas seulement Ford. Et une notoriété croissante avec donc les séries qui vont apparaître, et puis aussi d'autres films. Alors d'autres films, j'en citais un tout à l'heure, un grand spectacle, le chemin de fer, construction du chemin de fer, avec les deux parties qui vont se rejoindre. Si vous regardez les albums de bande dessinée de Lucky Luke, vous avez une quantité de références à John Ford que l'on ne peut pas voir, bien sûr, si on ne connaît pas son œuvre. Mais en permanence, ce sont des références à des westerns précis, et notamment celui-là, dans Le Cheval de Fer, épopée de la construction de ce cheval de fer. Et il va déjà mettre en place des personnages qui se rapprochent de ce qu'il va toujours faire, c'est-à-dire le personnage qui est un bandit, qui est exclu de la société, et qui va tout d'un coup apparaître comme beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dévoué que le personnage qui est classiquement le bon. Vous avez un film qui s'appelle « Trois sublimes canailles ». « Trois sublimes canailles », déjà le titre dit bien ce que c'est. Celui-là, il n'est pas perdu, on peut le voir. Et donc, trois personnages plus ou moins douteux qui vont s'opposer à un shérif qui, lui, est très fortement douteux. Et donc, ce sont ces personnages un petit peu perdus qui vont arriver à prendre la domination sur le personnage qui est censé être le bon, mais qui ne l'est pas. Alors, j'ai sélectionné là un film qui est de 1939. Pourquoi ? Parce qu'il a une adoration, si on peut dire, John Ford, pour Lincoln, comme beaucoup. On considère que Lincoln, c'est vraiment une avancée, c'est un démocrate qui a fait beaucoup de choses et qui a notamment supprimé l'esclavage. Donc, un film en 1939 s'appelle Young Minister Lincoln. En français, c'est Vers sa destinée. Oui, ça, les titres ne sont pas toujours en correspondance. Donc, c'est cette musique de Young Minister Lincoln qui va vers la reconnaissance, la fin du film. Et on le voit monter une colline, aller vers son destin. Donc, Young Minister Lincoln. Donc, de nombreux films muets, je peux en citer encore un parce qu'il y a eu beaucoup de remakes, ça s'appelle Le Champion en 1925. C'est un boxeur qui est en perte de vitesse avec son fils et qui va essayer de remonter la pente sans totalement y arriver. Donc, l'itinéraire de John Ford dans le cinéma muet, c'est déjà révélateur de ce qui été fait ou ce qu'il fera dans le futur. Déjà, l'originalité est là, le maître est là, et quand je dis le maître, d'ailleurs, je pourrais citer Bertrand Tavernier, puisqu'il y a deux cinéastes, un américain et un français, qui ont continué leur activité de critique alors même qu'ils faisaient des films. Bon, d'autres, Truffaut, Godard, ont arrêté. C'est Martin Scorsese qui a tourné des documentaires sur le cinéma. Et c'est Bertrand Tavernier aussi qui a tourné des documentaires et qui a écrit un livre référence qui s'appelle 50 ans de cinéma américain. Et dans ce film, le premier auteur qui vient, c'est John Ford. Et il l'appelle Le Parrain. Donc c'est un petit clin d'œil bien sûr à Coppola, mais ça montre combien il est attaché à son œuvre et combien son œuvre est à la base de tout le cinéma américain. Alors dans les films muets, on a un certain nombre de réussites. Et dans les films parlants, Des films qui sont un petit peu moins connus au départ, mais qui vont avoir de plus en plus une grande audience à partir, je dirais, des années 30. Donc, dans les films qu'on peut relever, bon, ils tournent encore une fois 3 ou 4 films chaque année, en moyenne. Il y a Le Mouchard, en 1935. Alors, il fait jouer dans Le Mouchard un acteur qui s'appelle Victor McGagan et qui fera partie de son équipe pendant des films et des films et des films, comme John Wayne, par exemple. Donc, l'intérêt de ce film, c'est qu'il se passe en Irlande. Ce sont les racines irlandaises de John Ford. Et il va adopter ici une attitude particulièrement critique vis-à-vis du Mouchard. Il s'agit de l'IRA. On a un leader qui est recherché et un de ses amis, un de ses proches, va le vendre en disant « Voilà, vous pouvez le trouver ici ». Et même l'Anglais qui doit le payer pour cela va le mépriser et le rejeter. Il est écarté par tous à cause de cette trahison. Alors, avec le même acteur, il a aussi tourné La Patrouille perdue, qui est un film plutôt de guerre, mais toujours aussi des personnages perdus et en difficulté. Alors, parfois, il y a des films dont on peut penser qu'ils sont des films de commande. Vous avez par exemple un film qui s'appelle, en 1937, La mascotte du régiment. Bon, là, c'est très secondaire. Il y avait une actrice enfant qui était célèbre, c'était Shirley Temple, et il l'a fait tourner dans ce film. Donc, ce n'est pas particulièrement impressionnant. Et l'année avant, il avait tourné Mary Stuart avec une actrice célèbre qui est Catherine Hepburn, et donc une des rares incursions dans le cinéma historique. Alors, ce que on peut voir de manière plus directe aujourd'hui, et ce qui se servira de transition pour la prochaine émission, dans la seconde partie, c'est l'année 1939-1940. À cheval, donc, sur 2 ans, on a 4 films. Et 4 films qui sont très révélateurs de ce que John Ford a pu tourner. C'est-à-dire qu'il y a le film dont je viens de citer la musique, c'est-à-dire Vers sa destinée, qui est Young Mr. Lincoln. Et là, en fait, il ne voit pas le Lincoln mythifié, il voit le Lincoln tout jeune qui arrive comme un avocat dans une petite ville. Et c'est Henry Fonda qui joue ce rôle. On a allongé son nez pour l'occasion. Et quand Henry Fonda demande des instructions à Ford, il dit ben, qu'est-ce que c'est Lincoln? Ben, là, c'est un petit avocat de province qui ne représente rien, mais tu le joues comme ça. Voilà, tu le joues naturel. Et donc, il veut essayer de montrer comment on a une apparition progressive de l'idéologie de Lincoln au fil du temps. Donc, Vers sa destinée, Young Mr. Lincoln, vous voyez, c'est à peu près pour une fois équivalent, alors que dans d'autres domaines, il y aura des transformations de titres qui seront parfois extrêmement stupides. Alors, le film qui, socialement, est le plus réussi de John Ford, c'est Les raisins de la colère. Alors, vous connaissez peut-être l'œuvre de John Steinbeck pour l'avoir lu. On se situe au moment de la Grande Dépression. Des paysans qui sont sur leur terre depuis des décennies, sur plusieurs générations, vont être chassés parce que les banquiers ont acheté les terres. Et donc, la famille qui est en cause, s'appelle la famille John, va partir et aller vers l'endroit où on leur dit qu'il y avait du travail. Sauf que tout le monde est parti vers l'endroit où il y avait du travail, et donc il n'y a plus de travail, et tout le monde est bloqué et ne sait plus quoi faire. Et au début du film, on a vu que Tom Jones, Henry Fonda, là encore, sortait de quelque temps en prison. Et à la fin, il y a un monologue où il parle justement à sa mère, Janet Owen, ça fait partie des grandes actrices de John Ford, et il dit « Partout où il y aura quelqu'un de martyrisé, je serai là. Partout où il y aura quelqu'un de frappé, je serai là. Partout où il y aura quelqu'un qui sera mis en prison, je serai là. » Un monologue qui est vraiment très très fort, et encore une fois, pour l'époque, je dirais, c'est quasiment du communisme pour les Américains, et ces raisins de la colère, c'est vraiment quelque chose qui est le sommet de l'art de John Ford. Alors, il y a le moins connu de ces 4 films, c'est Sur la piste des Mohawks. Bon, là, c'est un western. Premier western en couleur, toujours John Ford. Et les Mohawks, ce sont les Mohicans. Hein, et on suit donc les combats des Américains indépendantistes contre les Anglais et les Mohicans qui se rapprochent plutôt des Anglais que des Américains. Donc, un film qui, plastiquement, est tout à fait remarquable dans l'usage qui est fait de la couleur. Alors, je citerai un dernier film qui est La Chevauchée Fantastique, le dernier de ces quatre films. La Chevauchée Fantastique, c'est 16 coches. Pour une fois, on a le même titre. Et là, on dit que c'est une adaptation de Boule de Suif, de Maupassant, que vous connaissez aussi peut-être, où on va sacrifier une femme en considérant que c'est une prostituée, on n'a rien à faire, pour qu'elle aille directement avoir des relations avec l'ennemi et permettre au groupe de se sauver. Et donc ici, on a tout un éventail d'humanité, hein, la Chevauchée Fantastique, c'est assez extraordinaire. Il y a d'abord les grands acteurs toujours présents chez John Ford. Pour en citer un, c'est John Carradine. John Carradine a été le père de quatre acteurs futurs, notamment on a David Carradine, que vous connaissez peut-être si vous l'avez vu dans Kill Bill, c'est Bill, hein, et qui a joué aussi dans une série antérieurement dans les années 70. Donc La Chevauchée Fantastique, c'est vraiment une référence absolue. Il va aussi, mais je poursuivrai la semaine prochaine sur ce point, utiliser des Indiens, je dirais, authentiques, parce que jusqu'aux années 60, hein, les Indiens sont des Blancs grimés, hein, ce ne sont pas de véritables Indiens. Hein, c'est le blackface indien. Et donc là, il utilisera toujours la même tribu qui sera présente et fera de la figuration dans tous ses films. Donc voilà pour La Chevauchée Fantastique. On va écouter quelques secondes de la musique et on va s'arrêter là ensuite. Voilà pour cette première partie. Il y a beaucoup de choses à dire sur John Ford. Donc, on essaie de voir l'homme, les films muets, et puis on a commencé à voir ces films parlants, en particulier ces quatre films si fondamentaux et si frappants. Donc, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la seconde partie de l'émission sur John Ford. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Ludovic Morino. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.